L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force et l'honneur. À lui la gloire et le pouvoir dans les siècles des siècles. Mes très chers frères, en ce jour, l'Église nous fait célébrer la fête liturgique de la royauté universelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu, il est notre Rédempteur, il est l'agneau de Dieu qui, vers qui convergent tous les titres d'honneur et de gloire qui peuvent se porter en ce monde, sur la terre et sous la terre. Vrai homme et vrai Dieu, il s'impose au genre humain et à tout l'univers, c'est-à-dire aux hommes et aux anges et aux démons, à tout l'univers, par sa nature de médiateur. Voilà quelque chose de très important qui servira de référent pour le serment d'aujourd'hui. C'est par sa nature de médiateur que notre Seigneur se caractérise et qu'il s'impose à toute la création. Il est le roi universel auquel tous les êtres sont soumis, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le veuillent ou non. Il est le créateur universel, il est le rédempteur, de telle sorte que nul n'échappe à son règne. C'est le but de la liturgie d'aujourd'hui, la fête du Christ roi. La royauté universelle du Christ est une réalité, une vérité qui jaillit de l'Écriture sainte, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. C'est une des vérités les plus communes du christianisme, les plus glorieuses. Et ce n'est pas parce que la fête du Christ roi a été instituée en 1925 qu'on a découvert en 1925 que le Christ régnait. Pour diverses raisons, l'Église a institué cette fête et c'est elle que nous fêtons aujourd'hui alors qu'il semble que toutes les apparences soient contre ce dogme. Le Christ règne, voilà un présupposé fondamental sans lequel on ne peut pas comprendre la fête du Christ roi. La liturgie nous fait invoquer aujourd'hui le Christ comme Princeps Pacifer. C'est dans l'hymne des Vêpres, « Ô Christe Princeps Pacifer ». Le prince de paix, le prince pacifiant, pacificateur. Il donne sa paix, non pas comme le monde la donne, mais il donne sa paix qui est le repos de l'ordre qu'il a lui-même instauré par sa double nature de vrai Dieu et de vrai homme. Voilà diverses choses que nous avons à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. L'Épître et l'Évangile sont extrêmement importants pour comprendre cette vérité du règne du Christ roi. Saint Paul nous dit ceci, « Mes frères, rendons grâces à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. » Le Christ règne, c'est un fait dogmatique et un fait universel. Si j'ose dire, c'est un fait, quel que soit le degré de la création que vous invoquez, c'est un fait qui s'impose dans ce degré et dans les autres. C'est un fait, donc. Mais le fondement du règne du Christ est sa qualité de médiateur. En tant que médiateur, le Christ est celui qui tient le milieu entre Dieu et sa création. Il est vrai Dieu, de telle sorte qu'il est le Fils du Père, dans l'unité du Saint-Esprit, du Père éternel, et il est vrai homme, fils de la très sainte Vierge Marie, il est vrai homme de telle sorte que rien de ce qui est humain, rien de ce qui est créé, ne lui est étranger. Il n'est pas ce Dieu qui entretient avec sa créature des rapports d'ordre en quelque sorte logique, un Dieu créateur qui serait en même temps législateur et qui entretiendrait avec sa création des rapports qui sont des rapports d'ordonnation de la création en vue d'un bon usage de la création. C'est le Dieu des musulmans. Jusqu'à un certain point, cela correspond à la définition catholique de Dieu, mais ça s'arrête là. C'est un Dieu même qui, d'une certaine manière, ne peut pas vouloir, et c'est eux-mêmes qui le disent, et ils ont raison, qui ne peut pas vouloir l'inconfort de sa créature. Il y a diverses créatures. Dieu a donné, leur Dieu a donné à chacune une part, un rôle, certes, nous le disons aussi. Et dans tous ces rôles, le but est, eh bien, de jouir des choses sous le regard de Dieu en attendant la fin du monde. On pourrait penser que c'est quelque chose qui correspond au christianisme. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui correspond entièrement au christianisme. L'islam, évidemment, est emprunté au christianisme, donc du coup, par un certain côté, il lui ressemble. Nous n'allons pas dire que tout ce que nous avons dit est faux, parce que ce sont les musulmans qui le disent. Nous disons que tout ceci n'est que le prologue, le balbutiement du prologue de ce que nous avons à dire, ou plutôt de ce que l'Église a à dire de Dieu. Dieu est le créateur de la création. Il est le créateur d'une créature qu'il a faite à son image, déjà nous quittons l'islam, afin que cette créature vive à sa gloire, quelles que soient les implications que ça puisse être pour cette créature. Vivre à la gloire de Dieu, pour l'homme avant la chute, pour notre premier père Adam, c'était s'abstenir de manger du fruit défendu, et positivement, garder le jardin, le cultiver et peupler la terre. L'homme, sous le regard de Dieu, est l'image de Dieu qui doit tout faire en référence à son original. Dans l'islam, l'homme ne peut que jouir de la création d'un Dieu qui est infiniment séparé de lui. Je ne dis pas que les musulmans n'ont pas peut-être une notion de vivre à la gloire de Dieu, mais enfin, ça serait, disons, un emprunt plus ou moins conscient au christianisme. L'homme chrétien vit à la gloire de Dieu, et si j'ose dire, et c'est là où nous quittons l'islam, à ses détriments, à son détriment. Vous allez dire, il n'en a pas toujours été ainsi, puisque au commencement, l'homme vivait dans la félicité, mais pour la gloire de Dieu. Le problème, c'est que la félicité de l'homme ne lui semblait peut-être pas totale parce qu'il ne pouvait pas manger d'un seul arbre du jardin. Dieu avait interdit, dans l'islam, Dieu avait interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis une fois qu'il en a mangé, il a demandé pardon, Dieu lui a pardonné, et puis c'est tout. C'est le péché d'Adam. L'islam, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de pélagianisme. Pour Pélage, la doctrine originelle de Pélage, sinon du semi-pélagianisme, c'était que Adam avait commis une faute, mais comme nous commettons tous des fautes, et pas plus que la faute particulière d'un père, disons, n'entache fondamentalement son enfant, pas plus la faute d'Adam n'avait produit le péché originel. Voilà ce que notre père, saint Augustin, a réfuté sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu. En réalité, l'homme ne s'appartient pas. Ne s'appartenant pas, il appartient à Dieu, mais il appartient à Dieu d'une manière qui est réelle. Le Dieu de l'islam possède, j'imagine, ses créatures, parce que c'est lui qui en est le créateur. Le Dieu chrétien, le seul Dieu, le vrai Dieu, possède ses créatures, car il en est l'archétype, le surarchétype. Et plus précisément, c'est son Fils qui en est l'archétype. Ces créatures ne sont pas là pour jouir de la création, même si d'une certaine manière elles le peuvent jusqu'à un certain point, elles sont là pour vivre à la gloire de Dieu dans le paradis terrestre. En s'abstenant de ce dont elles devaient s'abstenir, la créature devait vivre à la gloire de Dieu en faisant ce qui lui avait été commandé, et bien par la suite, dans l'état de déchéance, dans le monde déchu, si j'ose dire, encore plus, puisque désormais, plus rien n'a de sens pour l'homme, sinon de vivre contre lui-même à la gloire de Dieu. Et cela n'est possible que par la nature, la qualité de médiateur du Christ, du Fils éternel de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la très sainte Trinité. Le fondement du règne du Christ est donc sa qualité de médiateur. En tant que médiateur, il est le Verbe de Dieu par lequel tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui, il est lui avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est vraiment le créateur de telle sorte que la création ne se trouve dans aucun autre lieu que dans le Verbe de Dieu. Le problème, c'est que cette création est rebelle. Elle est déchue, elle est marquée par le mouvement centrifuge. De telle sorte que non seulement le Christ, le Fils éternel de Dieu, plus précisément le Fils éternel de Dieu, est le Verbe par qui tout a été fait, il est l'instrument du Père par lequel le Père a créé toute chose, et lui-même est le Créateur, puisqu'il est égal au Père dans l'unité du Saint-Esprit. Néanmoins, ce médiateur s'avère, après la chute, une deuxième fois médiateur, et d'une façon suréminente. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, mais non pas simplement entre les créatures et leur Créateur, chose qui, par exemple, dans l'islam n'est pas utile, puisque le Créateur peut avoir un lien direct avec la créature, en lui donnant sa loi, etc., bien sûr, je ne caricature pas. Le médiateur dans le christianisme, c'est-à-dire dans l'absolu, dans la vérité, est celui qui réconcilie la création déchue avec un Dieu, non pas un Dieu triste, déçu, que sa création se soit détournée de lui, mais un Dieu en colère, dont la colère vient fondre sur la création. Vous allez dire, pourquoi est-ce que Dieu est-il si en colère envers un homme qui a déchu, une création qui est déchue et pourtant qui reste si belle? La création n'a d'autre réalité, d'autre raison d'être que d'être pour la gloire de Dieu. Dès lors que la création cesse d'être pour la gloire de Dieu, elle n'est plus à Dieu qu'un outil inutile dont il devrait se débarrasser. Un marteau est très utile au forgeron. Je dirais même que sans le marteau, le forgeron ne peut pas grand-chose. Il est fondamental. Un marteau cassé, un marteau tordu, un marteau, si c'était possible, ne servirait plus au forgeron d'une façon absolue, car il n'a plus aucun rapport avec ce qu'il est. A fortiori, la création. Dieu n'a pas besoin de la création, mais puisqu'il l'a créée, il l'a créée pour sa gloire. Dans la mesure où la création ne contribue plus à la gloire de Dieu, la colère de Dieu, c'est-à-dire le désintérêt et l'indignation de Dieu, est sur elle. Et quand je dis sur elle, je ne parle pas tellement des éléments du monde qui ont été soumis à la vanité contre leur gré, comme dit saint Paul, mais des hommes, l'humanité. Dieu a été à un moment si indigné par la création humaine, la créature humaine, qu'il l'a entièrement détruite de la surface du sol, de telle sorte qu'il n'a sauvé que 8 personnes dans l'arche. C'est Noé, le patriarche Noé, et les 3 patriarches fondamentaux de l'après-déluge. Le médiateur, par lequel Dieu a créé toute chose, s'avère d'une façon suréminente médiateur dans la mesure où il réconcilie en lui-même la création déchue, sujet de la colère de Dieu, avec un Dieu infiniment juste, infiniment bon, infiniment aimable, qui a été infiniment offensé par sa création. Il a été offensé en tant que père, il a été offensé en tant que créateur. Il l'a créée pour sa propre gloire, elle a refusé de lui rendre la gloire, elle ne sert strictement plus à rien. Mais, comme notre Seigneur le dit lui-même dans une parabole, alors que le propriétaire veut déraciner, détruire, éradiquer cet arbre qui ne porte pas de fruits, lui, le médiateur, le cultivateur, vient et se fait l'avocat de l'arbre. Il lui dit, je prendrai des mesures moi-même pour que cet arbre redevienne fécond. Telle est en quelque sorte la situation du médiateur, du Fils éternel de Dieu vis-à-vis de son Père. Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli une rédemption, la rédemption par son sacrifice, de telle sorte que, nous dit saint Paul, il a vaincu la puissance des ténèbres, il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et il nous a transplantés dans le royaume, dans son royaume, et c'est Dieu même qui, par son Fils, nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Le Christ est donc le Verbe éternel de Dieu, manifesté une deuxième fois en tant que médiateur, c'est-à-dire en tant que réconciliateur. Par comparaison avec sa qualité de rédempteur, la qualité de médiateur créaturel, créationnel, si l'on peut dire, n'est presque rien. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout ceci était en quelque sorte réduit à néant par la chute. En triomphant de la puissance du démon, le Christ a fait plus que se créer une autre création en remplacement de sa création déchue. Il a régénéré par son sang cette création qui, jusque-là, depuis sa chute, était l'objet de la colère de Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui, c'était vrai in principio, cela demeurait vrai en état de chute, car le fait que la créature a chuté n'enlève pas le fait que son devoir est de vivre à la gloire de Dieu et de contribuer à la gloire de Dieu. Et par son caractère, par son œuvre médiatrice, rédemptrice, le Christ a tout refait pour lui-même. Il n'y a d'autre fin à la création que le Christ, la gloire de Dieu. Tout ce qui ne contribue pas à la glorification du Christ ou de Dieu par le Christ est illégitime. Voilà quelque chose de fondamental, une sentence fondamentale dans la doctrine pratique ou dans l'application pratique de la doctrine de la royauté universelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui ne contribue pas à sa glorification est illégitime. Autant dire que l'ordre, pour le dire en des termes accessibles aux modernes, l'ordre prime sur le développement. Vous connaissez sans doute, vous connaissez peut-être, mes très chers frères, la philosophie d'Auguste Comte, qui est un des grands philosophes du XIXe siècle, enfin philosophe avec des guillemets, du XIXe siècle. C'est lui qui est à l'origine de toute forme de pensée conservatrice. Avant Comte, on avait tendance, disons, à vouloir faire table rase, mettons, je caricature un petit peu, mais on a voulu faire table rase en détruisant tout. Auguste Comte est venu en disant il ne faut pas tout rejeter, il ne faut pas avoir une amnésie absolue. Il faut prendre ce qui est bon dans l'ancien système, l'intégrer, en déduire certaines lois pour pouvoir contribuer à l'avènement de la société de demain. La devise de Comte, qui est, me semble-t-il, la devise du Brésil, enfin dans la République du Brésil, l'État du Brésil, ordre et progrès. Vous voyez, ordre et progrès, ça fait bien, ça sonne bien. Ordre et progrès, progrès quand même, parce qu'on n'est pas rétrograde. Et puis ordre, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous ne sommes pas des anarchistes, nous ne sommes pas des socialistes, nous ne sommes pas des gens avec des couteaux entre les dents. Ordre et progrès. Voilà ce qui semble l'équilibre parfait pour un moderne qui sait apprécier les choses anciennes et qui sait aussi que désormais il ne peut pas faire autre chose que du nouveau. Ordre et progrès, cette devise est en quelque sorte le péché originel de la pensée conservatrice. En fait, c'est un oxymore, ordre et progrès. Ce qui est ordonné ne peut pas progresser. Ce qui peut progresser ne peut jamais être ordonné selon un schéma non mouvant, non dynamique. Un ordre dynamique n'est pas un ordre, sinon les mots ne veulent plus rien dire. Vous voyez, qu'est-ce qu'un ordre dynamique? Alors on va dire c'est conceptualisable. Quand on a la définition traditionnelle de l'ordre, elle exclut la notion de dynamisme. Alors vous allez dire, est-ce que ça ne veut pas dire que l'ordre est ce qu'il est, il est parfait? Alors, il est parfait en lui-même, mais il peut toujours être pratiqué d'une façon plus parfaite. Mon père peut me dire, va travailler à ma vigne, et je peux y aller en renaclant, quoi qu'en le faisant. Je peux évidemment lui désobéir, ce qui est contraire à l'ordre, mais je peux aussi le faire avec empressement. L'ordre des choses est que j'obéisse à mon père dans le travail de sa vigne. Maintenant, je peux obéir avec joie et avec amour, je peux obéir d'une façon qui est tout juste appelée de l'obéissance, qui est capable, susceptible d'être appelée de l'obéissance. Vous voyez, bien sûr, l'ordre peut être appliqué d'une façon plus vertueuse. Vous allez dire, donc vous êtes pour le progrès. Arrêtons de jouer avec les mots, mes très chers frères. Le progrès est une notion moderne, et bien sûr, on pourrait dire un progrès dans la vertu, ce qui signifie une augmentation, bien entendu, mais quand on associe ordre et progrès, on associe l'eau et le feu. Ce qui est ordonné ne peut pas progresser. Ce qui peut progresser ne peut jamais être saisi selon les catégories traditionnelles de l'ordre. Voilà ce que je veux dire pour aujourd'hui. Ce n'est pas un cours de philosophie, c'est juste un serment. Donc, ordre et progrès, c'est le péché originel de la pensée conservatrice. L'ordre, nous l'avons dit, ne peut être que plus précisément respecté, il ne peut pas être amélioré. L'ordre ne peut être, d'une manière ou d'une autre, que ce qu'il est. Vous allez dire, parce que vous êtes moderne, non pas vous, mes très chers frères, mais d'autres peut-être, c'est désespérant ce que vous dites. Mais c'est désespérant pour le moderne, ce n'est pas désespérant pour l'homme traditionnel. En réalité, cette notion de progrès est inconnue à l'homme traditionnel. Tout ce qu'il connaît, c'est cette notion de perfectionnement qualitatif dans l'observation de l'ordre, c'est-à-dire d'une autre façon, dans les moyens que Dieu lui a donnés, si j'ose dire, dès le commencement, pour se sanctifier. Un ordre qui devrait être encore, alors par ailleurs, un ordre qui devrait être encore instauré, est un ordre, même si c'est un ordre, disons, qui serait exclusif de tout dynamisme et de toute notion de progrès, mais un ordre, j'attire votre attention sur cela, mes très chers frères, car cela va être important pour la suite, un ordre qui devrait être encore instauré, est un ordre marqué par l'imperfection primordiale de son impuissance à être dès le principe. Si on dit, ah voilà, nous avons l'idée d'un ordre parfait, maintenant, il faut combattre pour l'instaurer. Si cet ordre était vraiment parfait, il se serait imposé dès le début. Oui, mais la méchanceté des hommes, la chute, etc. Oui, mais la rédemption. Oui, mais l'invincible royauté du Christ, l'invincible royauté du Verbe éternel de Dieu, qui règne sur ces créatures, qu'elles le sachent ou non, qu'elles le veuillent ou non. Oui, mais les circonstances n'ont pas rendu possible cet ordre jusque-là. C'est donc que c'est un faux ordre. C'est donc que c'est un ordre qui ne vaut pas la peine d'être instauré, puisqu'il ne s'est pas instauré jusque-là. Vous allez dire, mais Dieu attend que nous fassions des efforts. L'ordre est donc le résultat des efforts de l'homme. Poussez encore un tout petit peu, l'ordre est le résultat de la volonté de l'homme. L'homme s'impose à Dieu. C'est Dieu qui s'impose à l'homme, mes très chers frères. Dans la doctrine de la royauté universelle du Christ, c'est Dieu qui s'impose à l'homme. Il y a des paroles terribles dans l'Office, où il est dit, d'ailleurs c'est emprunté aux Écritures, où il est dit que tout royaume qui résistera à son royaume sera détruit. Dieu n'est pas un gentil utopiste qui propose, qui lance des idées, et qui dit, en vous unissant, vous y arriverez. Dieu est celui qui dit, dès le commencement, obéissez-moi, c'est moi qui donne les ordres. Et les ordres ont été donnés, ils n'ont même pas été donnés après la chute, ils ont été donnés avant la chute. Croissez, multipliez, gardez le jardin et cultivez-le. Voilà le fondement de toute la société, de toute la doctrine de la société humaine. C'est pour cela que tout ce qui ne contribue pas à la glorification de Dieu par le Christ est illégitime. Et même si cela est susceptible d'advenir, il ne faut pas que cela advienne. La société traditionnelle, la société ordonnée, est une société qui ne conçoit pas un progrès dans son ordre. Elle conçoit une plus grande et une plus vertueuse observation de l'ordre, elle ne conçoit pas de progrès dans son ordre. Saint Paul nous dit ceci. Car il a plu au Père que toute plénitude résida en lui, c'est-à-dire dans son Fils, et par lui de réconcilier toutes choses en lui, soit celles qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans le ciel, en établissant la paix par le sang de sa croix, en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous parlons ici des effets de la rédemption accomplie. Mais nous parlons aussi ici du caractère de médiateur du Verbe par lequel tout a été fait avant la chute. Au commencement. Les deux perspectives se confondent car les deux perspectives ne sont que, en quelque sorte, la polarisation d'une seule et même réalité in divinis. Il a plu au Père que toute plénitude résida en lui et par lui de réconcilier toutes choses en lui, soit celles qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans le ciel, en établissant la paix par le sang de sa croix en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce sont des paroles extrêmement profondes et je ne prétends pas les épuiser, loin de là. Nous ferons que les effleurer, mais en donnant pour aujourd'hui la mesure de blé qui est nécessaire. En réalité, on ne peut pas parler du règne de notre Seigneur, de la royauté du Christ, par extension, même si l'on entre dans des ambiguïtés verbales, mais disons, mettons, par extension, on ne peut pas parler de la société chrétienne, on ne peut pas parler de la société traditionnelle chrétienne si l'on ne se fonde pas sur cette importance fondamentale du sang du Christ, par le sang de sa croix. La croix inondée de sang de notre Seigneur est le moyen fondamental et la clé en réalité, non pas pour instaurer le règne du Christ, mais pour s'y insérer. Le Christ règne. Le Christ possède l'Empire. Le Christ régit toutes choses. Ce n'est pas nous qu'il attend pour que cela commence à être vrai. Cela est vrai indépendamment de nous, et cela reste indépendant de nous, à nos dépens, si nous ne nous insérons pas dans cet ordre, ou plutôt si nous ne sommes pas insérés dans cet ordre. C'est pour cela que saint Paul commence en disant « Rendons grâces à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. » Autrement dit, quiconque s'imagine faire partie ou être inséré dans le règne du Christ, s'imagine être un défenseur du règne social, de la royauté sociale de notre Seigneur, comme on dit, et qui ne prend pas en compte cette notion fondamentale de la puissance rédemptrice du sang du Christ, celui-ci ne fait pas partie du royaume du Christ, mais celui-ci se trouve parmi les ennemis du règne du Christ. Alors vous allez dire, mais il me semble que tout le monde sera d'accord là-dessus. Je l'espère, mes très chers frères, je l'espère. On ne peut théoriser, si j'ose dire, le règne du Christ sans être intégré dans l'ordre du salut. Où voulez-vous en venir? C'est là, justement, que le bas blesse, mes très chers frères. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'école plus amie de l'ordre que celle qui avait pour devise politique d'abord. Bien sûr, il s'agit de l'Action française, il ne s'agit pas ici de faire des condamnations, il s'agit ici de voir l'histoire. Cette notion fondamentale semble et peut être interprétée comme une sorte d'ordonnation des choses. On ne va pas tout mélanger, on ne va pas mélanger les livres de prière avec les livres de sciences politiques. Si c'est ça que ça veut dire, alors on est tout à fait d'accord. Parfaitement d'accord. Maintenant, évidemment, ça veut dire un peu plus. Vous savez que, et bien sûr cela a été contesté par Maurras, mais la grande phrase qui se disait probablement oralement, qui n'a jamais été écrite, mais c'est que interdiction à Dieu d'entrer dans nos observatoires, quelque chose comme ça, dans nos cercles. Ça ne voulait pas dire que c'était des gens athées, bien entendu, mais nous les connaissons bien. Ça veut dire simplement qu'il fallait distinguer toute chose. Le problème, c'est que quand on veut distinguer, la plupart du temps, on n'arrive qu'à séparer. Toute cette notion fondamentale de royauté dans laquelle l'Église a son rôle à jouer, est issue, nous le savons, car il le disait, de la pensée d'Auguste Comte. Cette pensée qui est comme le péché originel de toute pensée en modernité. Abstraction faite de la rédemption, le Christ roi, la notion de Christ roi, devient un concept idéologique que même un athée peut soutenir. C'est-à-dire quand même, un athée ne peut pas être pour le règne du Christ roi. Un athée, peut-être pas selon l'idée que nous, catholiques, nous faisons d'un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller à la messe, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est impie. Bon, ça c'est un athée grossier. Un athée subtil, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui parle du Christ roi, qui parle de la royauté du Christ, qui parle donc des lieutenants du Christ, les rois, et qui parle même de la place de l'Église sans s'insérer dans l'Église. Et c'est pour cela que l'Action française a été condamnée, entre autres. Je sais que c'est une question complexe et j'en suis bien conscient et je le sais, mais le problème c'est que en réalité, on ne peut pas trouver quoi que ce soit positivement à reprocher à l'Église dans cette condamnation, que cela ait servi les démocrates, etc. Bon, je veux bien, c'est une autre histoire, mais en réalité, il y avait un fond de mécréance fondamentale. Ceux qui étaient pour l'Église contre les protestants, les athées, les francs-maçons, etc., ne s'inséraient pas eux-mêmes dans l'ordre du salut. Alors vous allez dire, ils étaient tous baptisés, bien sûr. S'il suffit d'être baptisé pour s'insérer dans l'ordre du salut, cela se saurait. En réalité, s'insérer dans l'ordre du salut, c'est être profondément conscient, je le dis d'une certaine façon, hein, on pourrait le dire d'une autre façon, mais être profondément conscient que tout ce que je dois faire, quelle que soit la nature de ce que je dois faire, bien sûr, tout ce que je dois faire doit être fait pour la plus grande gloire de Dieu et la gloire du Christ, la gloire de Dieu le Père par le Fils. Tout ce que je fais, dans cette conscience que je dois tout faire pour la gloire de Dieu, doit être accompli par le seul mouvement de reconnaissance qui provient de la certitude que si je fais quoi que ce soit de bien, je ne le fais pas par moi-même, mais je le fais par une grâce qui me le fait faire. Autrement dit, si vous n'êtes pas augustinien, dans le sens catholique et ancien du terme, si vous n'êtes pas profondément pratiquant, avec une pratique ordonnée, vous ne pouvez pas ne pas être un ennemi du Christ roi. Même si vos paroles vont dans le sens de la doctrine sociale de l'Église telle que l'enseigne le magistère depuis Léon XIII, vous ne pouvez pas être considéré comme un ami du Christ roi. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous instrumentalisez le Christ qui est votre roi, qui est notre roi, et qui n'est pas un concept par lequel certains, c'est-à-dire des catholiques, imposent une certaine vision des choses, une certaine vision de la société. Même un athée peut soutenir le concept idéologique d'un Christ roi dès lors qu'il se soustrait à l'ordre du salut. Dès lors qu'il est un baptisé qui ne vit pas en conformité avec son baptême, avec les engagements du baptême, c'est un ennemi du Christ roi. Alors vous allez dire, ça tombe bien, je connais beaucoup de gens qui récusent l'idéologie maurrassienne et qui voient vraiment l'origine de tous les maux. C'est très bien. Ces gens-là sont-ils ordonnés? Vivent-ils leur vie chrétienne à la gloire de Dieu selon l'ordre du salut? C'est sûr que ce sont des militants, c'est sûr que ce sont... Mais pourtant, ils font beaucoup de bien. Ils instruisent, ils informent, ils réinforment. C'est merveilleux. Eux aussi sont des ennemis du Christ roi. Pourtant, ils se disent ses amis. Mais Judas aussi a été appelé ami par le Christ. Est-ce que c'était vraiment son ami? Et d'une certaine manière. Et on voit comment il a fini. Donc c'est pas parce qu'on se dit ami du Christ roi qu'on finira pas en enfer. Vous voyez? C'est vrai pour tous les chrétiens. C'est pas seulement pour cela. Vous voyez? On ne peut défendre le règne d'un Dieu tout-puissant. On ne peut être les héros d'un Dieu qui n'a besoin de personne pour s'imposer à tous et pour régner d'une façon invincible. On ne peut pas être les chevaliers qui imposent la volonté d'un Dieu auquel sa volonté s'impose même aux démons. Alors vous allez dire, mais à quoi servons-nous ? Je sens un peu de vexation dans votre discours, mes très chers frères. À quoi servons-nous si Dieu peut tout ? Nous ne servons à rien, sinon à la gloire de Dieu, selon l'ordre qu'il a établi pour que nous y contribuions. Quand vous aurez fait tout ce que vous devrez faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Quelle gloire d'être un serviteur inutile ! Quelle gloire de passer toute sa vie à faire le maximum d'efforts en correspondance avec la grâce pour vivre à la gloire de Dieu dans cet esprit de reconnaissance envers ce Dieu sans lequel nous ne pouvons rien, et d'avoir la satisfaction à la fin de sa vie de se dire « Dieu n'a pas eu besoin de moi, je suis un pur produit de la grâce gratuite de Dieu ». C'est une satisfaction bien spirituelle, bien entendu. Et bien peu nombreux sont ceux qui l'éprouvent. Vous savez, mes très chers frères, il y a deux façons d'être rebelle au Christ roi. La première façon est très facile. Elle consiste à refuser de se soumettre à l'empire du Christ par l'insertion dans l'ordre. C'est-à-dire que le Christ règne, mais je ne veux pas entendre parler du Christ, je ne veux pas être catholique, je méprise mon baptême. Bon, ça c'est la façon vulgaire. La plupart des hommes la pratiquent. La plupart des chrétiens, du moins, la pratiquent. Mais il y a une deuxième façon d'être rebelle. C'est en déclarant que le Christ, le roi, est découronné, a été découronné, et spécialement par ses pires ennemis. Quand les révolutionnaires ont décapité le roi, Louis XVI, est-ce que les fidèles du roi ont dit « le roi est décapité le... » Non, ils ont dit « le roi est mort, vive le roi », comme on avait toujours dit. Il y avait Louis XVII dans sa prison, et c'est lui le roi, c'est lui qui a été le roi. Imaginez des monarchistes, enfin le mot n'est pas juste, disons des fidèles du roi, dire le roi a été décapité, la tête qui portait la couronne a été décapitée, maintenant il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, c'est une sorte de petit coup d'état mental, il faut faire quelque chose, il faut reconnaître l'autre roi. Son fils règne immédiatement, lorsqu'un roi meurt, c'est son fils qui règne ou c'est son héritier qui règne. Et puis quand lui-même disparut, c'était ses oncles, Louis VIII, Charles X. Vous voyez, insister lorsque le monarque temporel est dans une situation difficile, insister sur son impuissance, sur sa faiblesse, sur le fait que ses ennemis ont triomphé de lui, ce n'est pas vraiment contribuer à sa gloire. Vous voyez, imaginez que les fidèles du roi n'est plus appelé le roi que le décapité. Ah, prions pour le décapité, vive le décapité, vive le roi. Certes, le roi a été victime de ceux qui l'ont, de ses bourreaux, mais le roi est mort, vive le roi. Donc, si c'est vrai pour le roi temporel, a fortiori pour le roi éternel, qui ne peut pas être décapité, a fortiori qui ne peut pas être découronné. Vous voyez, il y a une façon de dire que le Christ a été découronné qui est insultante. Et je vais vous dire, il y a de toutes les façons qu'on le dise, c'est insultant pour le Christ. Il a plu à Dieu le Père que toute plénitude résida en lui et par lui de réconcilier toutes choses en lui, lui qui a été découronné. C'est un double, c'est un triple camouflet. Au Christ, tout d'abord, au Père et au Saint-Esprit. Puisque insulter une personne divine, c'est insulter les trois, c'est insulter le Dieu unique. Il y a une façon d'être rebelle à la royauté du Christ, et c'est de le déclarer découronné. Vous allez dire, pourtant, ce sont des gens très autorisés qui l'ont dit. Effectivement, c'est même le titre d'un livre, vous le savez très bien, et par charité, par respect aussi, je ne citerai pas son illustre auteur, mais enfin, c'est un livre que le titre lui a été inspiré par ses conseillers, je ne veux pas le savoir, c'est un livre qui existe, c'est un livre qui est lu par tout le monde, c'est un livre qui est en quelque sorte la quintessence de la pensée traditionnaliste, et quand je dis quintessence, je dis le résumé de ce qu'elle est indépendamment de la pensée des évêques. C'est plutôt un évêque qui a résumé la pensée qui avait cours dans le milieu où il était, plutôt que lui qui a imprimé une pensée sur ses fidèles. C'était dans l'air, vous allez dire, évidemment c'était dans l'air, regardez la tragédie du concile, c'était dans l'air bien avant, mes très chers frères. Le concile n'est venu que parfaire l'œuvre de destruction qui a été faite. Alors vous allez dire, je l'ai lu, effectivement on parle des Carbonari, la révolution en tiare et en chape. Oui. Qui est-ce qui a tout concentré univoquement dans le pape? Qui est-ce qui a détruit systématiquement non seulement les évêques, non seulement la puissance des évêques, mais la notion même d'épiscopat? Qui est-ce qui a inspiré aux catholiques une répugnance envers la notion d'évêque, qui est presque dans la mentalité catholique, disons antilibérale, devenue synonyme de pré-schismatique? Un évêque qui est un évêque, c'est quelqu'un qui s'oppose au pape, puisqu'il ose se dire quelque chose alors que le pape est tout. Ce sont les francs-maçons, peut-être, ce sont peut-être les carbonari. Qui est-ce qui a subverti la mentalité catholique au point que un évêque qui ne se considérerait pas comme une sorte de valet, que sais-je, de domestique du pape, était considéré comme un rebelle, comme un hérétique. Ah, ce ne sont pas les francs-maçons, hein, et puis c'est encore moins les juifs. Ce sont ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les antilibéraux. Ce sont les militants. Ce sont ceux qui, sous prétexte de glorifier le pape, ont détruit la notion d'épiscopat, qui ne s'en est jamais relevé, à tel point que même les évêques actuels sont de mentalité anti-épiscopale. Quand il leur arrive d'être évêques, ils s'automutilent, ils se diminuent eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une façon d'injurier au Christ éternel qui consiste à dire qu'il est découronné. Si le Christ a pu être découronné, même métaphoriquement, même illusoirement, alors le Christ ne correspond pas à cette deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Il correspond plutôt au faux Messie décrit dans le Talmud, qui, d'une manière ou d'une autre, se cassera la figure et qui boue en enfer dans une cuve de choses qu'on ne peut pas nommer. Vous voyez ? Finalement, vous voyez, qui est-ce qui triomphe ? En proclamant le découronnement du Christ, ce sont les ennemis du Christ, ce sont les contempteurs du Christ. Le Christ n'est pas découronné. Alors vous allez dire, mais enfin, quand même, regardez la situation, il n'y a plus d'État catholique. Ah oui, c'est vrai, si M. Macron pouvait être un nouveau Garcia Moreno, ça serait merveilleux. Mes très chers frères, de qui se moque-t-on ? La militance, qui a pour but de recouronner le Christ, est un affront direct et un affront incomparable fait à la royauté de notre roi, au pouvoir de notre roi, à la majesté de notre roi. Non seulement il est découronné, alors que c'était le Père lui-même qui l'avait couronné, mais encore, grâce à nous, il sera recouronné. Comment ? Eh bien, en insistant sur le thomisme, en faisant des structures sociales peut-être inouïes, mais du moins qui respectent la loi du Christ. Avez-vous déjà entendu parler de la loi du Christ ? Mes très chers frères, elle est universellement méprisée. Elle est méprisée par ceux-là même qui opposent le Christ roi au Christ rédempteur, qui opposent la fonction de l'Église, la fonction de la seule internationale qui tienne, à toutes les aberrations modernes. Vous direz, je ne vous suis plus vraiment, je ne comprends plus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Mes très chers frères, le Christ est-il découronné ? A-t-il pu être découronné ? Il ne le peut pas, puisqu'il a été couronné par le Père. Il est le Messie, il est le roi. L'archange Gabriel, Saint Gabriel, a dit à la très sainte Vierge Marie de la part de Dieu que Dieu lui donnerait son trône le trône de son père David qui n'aurait pas de fin. Le Christ règne jusqu'à la fin des temps. Vous allez dire évidemment, ça ne se voit pas ou ça ne se voit plus. Mes très chers frères, choisissez. Ça ne se voit pas ou ça ne se voit plus. Attention. Si vous dites ça ne se voit pas, et vous dites donc qu'il semble qu'il est découronné, excusez-moi, mais vous êtes complètement imbécile. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, vous qui avez la foi, que le Christ règne en dépit de ses ennemis. Et puis si vous dites « ça ne se voit plus », alors faites attention, parce que si vous êtes militant et que vous dites « ça ne se voit plus », en fait vous vous coupez l'herbe sous les pieds. Ça ne se voit plus. Donc ça veut dire que ça se voyait autrefois. Mais quand est-ce que ça se voyait autrefois ? Quand il y avait des rois catholiques, quand les évêques avaient aussi étaient à la tête des églises particulières et qu'ils étaient les vrais princes de l'église dispersés dans l'univers, en union et en soumission au pape, bien entendu. Lorsque les princes étaient considérés comme des vicaires, comme des lieutenants, des vicaires, c'est la même chose du Christ roi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous vous coupez l'herbe sous les pieds. Parce que la militance pour le recouronnement du Christ est assise sur le fait d'entériner la destruction de l'ancien ordre des choses qui arrange bien tout le monde. La grande idée de Lamennais, vous savez, c'était de réconcilier la révolution avec purifié, bien entendu, converti. mais avec les vrais principes catholiques. Oui, je peux vous citer une citation. La démocratie, non moins que tout autre régime, doit réaliser le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. La démocratie doit quand même avoir un roi, notre Seigneur Jésus. J'allais dire, oui, c'est sûr que l'amener, la pousse un peu. Mais c'est bon, Monseigneur Lefebvre. Dans le livre en question, bon, je l'ai cité, mais tout le monde le savait. La démocratie, non moins que tout autre régime, doit réaliser le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. La monarchie d'un Louis XVI, la monarchie d'un Saint Louis, je dirais même, pour être plus réaliste, la monarchie d'un très saint roi, d'un très impieux roi comme notre roi Louis XIII, n'était pas capable de mettre en place le concept de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une nouveauté. Vous allez dire quand même, attendez, vous savez qui est-ce qui l'a enseigné? Oui, oui. Oui, je le sais très bien. C'est les papes depuis Léon XIII, bien entendu, et ils ont raison d'avoir enseigné ce qu'ils ont enseigné. La seule chose, je n'en veux pas, au contraire, aux ceux qui enseignent, j'en veux à leurs commentateurs. Évidemment, ceux qui ont le mieux compris cet enseignement, ce sont les démocrates chrétiens. Bien entendu. Et puis ceux qui ont cru comprendre mieux faisaient pire. C'était les disciples d'Auguste Comte, déguisés en royalistes. La démocratie qui a un roi, notre Seigneur Jésus, c'est finalement, mes très chers frères, le système des États-Unis, avec une touche d'intolérance en plus qui le vicie et le rend impossible. Heureusement que le système libéral américain avec une touche d'intolérance n'existe pas. Ou alors c'est l'Espagne de Franco, ou je n'hésite pas à le dire, ce sont des échecs énormes, ce sont des choses hybrides, ce sont des systèmes fondamentalement modernes, avec une large injection de catholicisme, je ne sais pas exactement, dedans, ce qui a fait que ce sont des monstres qui ont duré un temps et qui ont dégoûté fondamentalement les peuples qui sont venus après de la religion catholique. Alors, vous allez dire, ce n'est pas vraiment ce qu'on dit habituellement. Ben, je n'ai rien contre ces gens-là et j'espère que tous sont au ciel, bien entendu. Mais les choses qu'ils ont réalisées étaient des aberrations. Des aberrations. Vous allez dire, après, il y a eu la restauration de la monarchie. Oui, un monarque qui a fait un coup d'État pour instaurer la démocratie. En plus, un monarque complètement illégitime. Bon, ça c'est toute autre chose, nous sommes français. Mes très chers frères, dans la mesure où vous dites que le Christ est découronné, dans la mesure où vous dites qu'il semble qu'il est découronné parce qu'on ne voit pas qu'il règne ou on ne voit plus qu'il règne, vous avez tort. Le Christ règne. J'allais dire, est-ce que vous niez que aujourd'hui ça ne se voit pas? Ce n'est pas parce que un musée, le musée du Louvre par exemple, est investi par des aveugles qu'il n'y a pas d'œuvre d'art dedans. Il y a une multitude d'aveugles qui tâtonnent partout, mais est-ce que je vais dire, oui, effectivement, on ne voit plus. Il ne voit plus, mais il y a 10 000 aveugles qui viennent visiter le musée. Il y a 10 000 personnes qui ne voient pas les choses qui sont là. Vous allez dire, mais aujourd'hui, on ne voit plus. Alors, vous êtes aveugle, alors. Vous ne voyez pas que le Christ règne. Vous ne le voyez pas régner. D'une certaine manière, je le conçois bien. Il ne règne pas, parce que s'il régnait, évidemment, ça serait moins motivant. S'il régnait, s'il n'était pas heureusement découronné, à quoi bon militer? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait être soumis à la hiérarchie. Il faudrait que les femmes soient soumises à leurs époux, que leurs époux soient soumis aux prêtres, que les prêtres soient soumis aux évêques. Il faudrait que les évêques entretiennent des liens fraternels entre eux, qu'ils prient pour le retour du pape. Il faudrait que les princes dominent sur les peuples catholiques. Il faudrait que les évêques, de concert avec les princes, guident au temporel et au spirituel le peuple catholique ordonné. Oh, tout ceci est bien barbant, effectivement. Alors, vive le Christ découronné, au moins il ne nous nuit plus, il ne nous embête plus avec son ordre, et c'est nous qui allons inventer l'ordre de demain. Ordre et progrès. Vous êtes donc roi ? Dit Pilate à notre Seigneur dans l'Évangile. Vous êtes donc roi, Jésus répondit. Tu le dis, je suis roi. La royauté du Christ est la forme de tout gouvernement légitime. C'est elle qui est le modèle divin dont la royauté terrestre est la réalisation. La démocratie, c'est l'autocapitation du corps, si j'ose dire. C'est une expression un peu pédante, c'est vrai. C'est le corps qui lui-même se fait son propre chef et qui croit donner le change en respectant, quand c'est une démocratie chrétienne, respectant les lois du Christ. Qu'est-ce que les lois du Christ ? Malheureusement, nous n'avons pas de temps. J'aimerais faire des sermons de 5 heures pour bien expliquer les choses, mais il faut se raisonner quand même. Il faut faire de petits sermons. Qu'est-ce que les lois du Christ ? C'est les lois du renoncement. Alors vous allez dire, oui, mais justement, ça montre bien que les lois du Christ sont antisociales. Du renoncement au sein d'un ordre dont le Christ est le modèle. Le Christ qui vous dit, ne cherchez pas les honneurs, c'est le Christ qui fonde l'autorité des rois, qui distribue les honneurs. Vous allez dire, donc le Christ se contredit. Mes très chers frères, je vois que vous êtes un moderne très avancé qui avait besoin d'une forte désintoxication. Vous ne comprenez rien. Le Christ donne un ordre, comme la personne qui vous dit « montez vers moi » et qui vous donne une échelle, vous munit d'un outil qui vous permet de réaliser la chose fondamentale que vous voulez, c'est-à-dire de passer du rez-de-chaussée à l'étage. Si la personne vous dit « ne restez pas au milieu de l'échelle, ne faites pas une sieste en grimpant », elle ne va pas se contredire alors même que c'est elle qui vous a donné l'échelle. Elle vous dit « prenez l'échelle pour monter ». Elle vous dit « prenez l'échelle, mais non pas pour l'utiliser pour une autre chose ». Prenez l'échelle et non pas un tabouret trop court, un trampoline, que sais-je, des choses qui sont très hasardeuses quand il s'agit de monter plus haut. Vous voyez, si j'ose dire. Dans l'encyclique Quas Primas, qui institue la fête du Christ roi, sa sainteté Pie XI dit ceci. En imprimant à l'autorité des princes et des chefs d'État un certain caractère sacré, la dignité royale de notre Seigneur ennoblit du même coup les devoirs et la soumission des citoyens. Un président de la République catholique, d'une république très ultramontaine dont les lois sont en conformité avec les lois du Christ, est-il un lieutenant du Christ ? Il n'y a qu'un prince, il n'y a qu'un grand, il n'y a qu'un noble qui puisse être un vicaire, un lieutenant du Christ. Pour le temporel, en son endroit, il ne s'agit pas d'usurper les droits de quiconque. Voyez ? En imprimant à l'autorité des princes et des chefs d'État un certain caractère sacré, donc c'est une affirmation, le pape l'affirme en passant. C'est une évidence. Il ne dit pas « je vais vous apprendre quelque chose ». Ça aurait été un peu fort, ça faisait 1500 ans qu'on le savait. Vous voyez, pour lui, c'est acquis. La dignité royale de notre Seigneur ennoblit du même coup les devoirs et la soumission des citoyens. Ça veut dire que celui qui se soumet à l'ordre n'est pas avili par cet ordre. Mais qui pourrait le penser sinon les modernes, les héritiers de la Révolution ? Ceux qui tirent tout leur avantage de la révolution. Ah, on est contre la révolution, mais on utilise les armes de la révolution. L'ordre est sacré, et c'est une impiété que de le renverser. Pie XI dit encore dans l'encyclique, « Les princes et les gouvernants légitimement choisis commandent bien moins en leur nom propre qu'au nom et à la place du roi divin. » Ils sont les lieutenants, les vicaires, lieutenant et vicaire, c'est le même mot, hein, c'est synonyme. Ils sont les lieutenants, les vicaires du Christ roi. Alors vous allez dire, j'ai cru entendre les gouvernants légitimement choisis. Oui, bien sûr, quand par exemple les grands électeurs élisent l'empereur. Vous pensez quand même qu'ils ne parlent pas de la démocratie. Donc, voyez mes très chers frères, il y a un ordre. Nous ne sommes pas les défenseurs de cet ordre, car cet ordre n'a pas besoin de nous pour exister, il n'a pas besoin de nous pour subsister. Il a plu au Père que toute plénitude résidât en lui. Cet ordre est ce qu'il est. L'humanité tout entière est aveugle et elle ne le voit pas. Vous avez des yeux, nous avons des yeux pour nous insérer dans cet ordre. Nous ne sommes pas les défenseurs de cet ordre, nous sommes de ceux qui s'insèrent à leur très humble niveau dans cet ordre qui est immuable et qui durera jusqu'à la fin du monde. princes, maris, évêques, je le dis dans le désordre, sont des vicaires du Christ selon leur ordre propre. Usurper leurs prérogatives, c'est commettre un sacrilège. Or, le sacrilège entraîne la colère de Dieu. Ce sacrilège se nomme militance. J'ai lu quelque part récemment le titre d'une conférence qui a été donnée en présence d'un prince. Le militant, dernier rempart de la cité. De qui se moque-t-on ? Historiquement parlant, le militant est celui qui a été le premier des destructeurs de la cité. Permettez-moi de vous citer un petit extrait d'un opuscule d'un évêque, Mgr Clausel de Montal, qui est un ancien évêque de Chartres au XIXe siècle. Écoutez ce qu'il dit. La théologie est la plus sublime et la plus belle de toutes les sciences. Elle a des jours et des points de vue qui ne peuvent être révélés que par le génie ou clairement aperçus que par une longue et très sérieuse étude. Elle demande des recherches ou des réflexions profondes qui ne s'allient pas avec les quolibets et les plaisanteries propres à égayer la multitude. Les Augustins et les Bossuets ont creusé profondément dans cette science, mais ils ne l'ont pas épuisée. Si les journalistes se chargent exclusivement d'enseigner les vérités les plus respectables et les plus élevées dont se compose cette science, ils pourront former de beaux esprits, assaillis piquantes et des comédiens du premier ordre, mais ils ne feront pas des chrétiens. S'ils se mêlent de dogmatiser sur la religion, la société est encore perdue. Ils travestissent toutes les règles de la civilisation. Cet échange et cette substitution d'un État à l'autre auront bientôt amené l'anarchie. Tout sera bouleversé dans le monde. Le jurisconsulte voudra se mêler d'un art dont il n'a point étudié les secrets. Il ne saura défendre les intérêts de ses clients et causera leur ruine. L'astronome, sans aucune instruction préalable, voudra traiter les malades et soulager l'humanité. Il ne fera que des victimes de son ignorance et il multipliera les conquêtes et les ravages de la mort. L'artisan voudra commander les armées et les champs de bataille seront couverts des malheureux qui auront été chercher des lauriers sous la conduite de ce général, bien plus propre à se distinguer par des travaux mécaniques et obscurs qu'à conduire des héros à la victoire. En un mot, tous les États seront déplacés, intervertis, et c'est le moyen le plus efficace et le plus propre pour perdre et désoler un peuple. Voilà ce que disait un évêque il n'y a encore pas si longtemps, en 1853, à propos des militants, de ceux qui sont les pères des militants d'aujourd'hui. Ils ruinent non seulement l'ordre ecclésial, il en parle ailleurs, mais l'ordre de la société. Si tout le monde fait ce que son prochain fait, c'est-à-dire si tout le monde empiète sur l'état d'un autre, la société s'écroule. Le militant, dernier rempart de la société, le militant, d'après les évêques du XIXe siècle, premier destructeur de la cité. Le Christ n'est pas découronné, et ce sont les militants qui auraient bien voulu le découronner dans la personne de ses vicaires, royaux, épiscopaux, etc., sinon papal, c'est bien eux qui ont tout intérêt à le découronner, pour faire advenir un autre monde, un autre ordre, où la doctrine des États n'existe plus, où tout le monde se mêle de tout, enfin en tout cas en théologie. Je continue la citation. Mais, dira l'univers, on a toujours vu des laïcs se mêler dans les disputes de religion. Non, rien de plus rare que de voir des écrivains séculiers s'ingérer dans les discussions théologiques et porter la main à l'encensoir. Pour les journalistes, surtout, quelque spirituels qu'ils soient, ils sont dans l'obligation de traiter une variété immense de sujets, ils savent tout superficiellement et ils ne savent rien à fond. C'est donc à eux une excessive témérité de prononcer avec une hauteur magistrale et opiniâtre sur des questions libres et problématiques que présente quelquefois la théologie, et de faire la leçon à ceux qui sont et doivent être leurs maîtres et leurs guides. En un mot, à quelque profession qu'on appartienne, il faut se renfermer dans la sphère des connaissances qu'on a approfondies par état et pendant de longues années, et qu'on possède avec une capacité incontestable. Le Christ découronné, il n'a pas été découronné par les francs-maçons, par les juifs, par les carbonari, il a été découronné par ceux qui voulaient qu'il fût assez faible pour l'être, et ses ennemis ne le pouvant pas, ils s'en sont donnés eux-mêmes l'idée. Un Dieu moliniste, un Dieu qui est en quête de notre approbation, de notre amour, que sais-je, un Dieu qui ne violente pas l'être humain, un Dieu qui se laisse plutôt violenter. Alors vous allez dire, mais n'est-ce pas la passion ? La passion, c'est le Christ une fois, ça a duré un jour. une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Et c'est un paradoxe. C'est pour faire son œuvre de rédempteur. Le militant est un révolté a principio, dans le principe dès le commencement, qui a tout intérêt à proclamer le découronnement du Christ, car il veut refonder l'ordre et en instaurer un nouveau où Dieu est débiteur de l'homme. C'est le renversement de l'ordre de la rédemption. Et si j'ose dire, c'est vrai aussi pour les militants qui veulent mettre des rois, un roi à la tête du pays, etc. Pauvre roi, je n'ose pas me mettre à leur place. Imaginez, s'il y a 100 000 catholiques qui ont milité pour que le roi, il a 100 000 débiteurs. Il vaut mieux pour lui rester dans l'obscurité. Il vaut mieux que la France reste une république plutôt que d'avoir un roi débiteur de tous ceux qui l'ont porté sur le trône. Mais c'est pas pour demain la veille, semble-t-il. En tout cas, pour le Christ, comme c'est plus abstrait, pour ces gens-là qui sont en fait des athées, de toute façon, ils n'existent pas. Vous allez dire quand même, ce sont peut-être les meilleurs chrétiens qu'on puisse trouver aujourd'hui. Ils n'existent pas, leur Christ. Ils n'existent pas. Pourquoi ? S'il existait, ils se soumettraient à lui. S'il existait, s'il n'était pas autre chose qu'une idole, qui n'est en réalité qu'un miroir qui renvoie leur propre visage, s'il existait vraiment, ils n'oseraient pas lui dire « Nous ne voulons pas que vous régniez sur nous ». Alors vous allez dire « Mais c'est plutôt eux qui le disent, des autres ». Nous ne voulons pas que vous régniez sur nous. Nous ne voulons pas être soumis aux prêtres. Nous ne voulons pas être soumis aux évêques. Nous ne voulons pas que les femmes soient soumises aux maris, que les maris soient soumis aux prêtres, etc. Et nous ne voulons pas que les enfants soient soumis aux parents. Nous voulons un ordre nouveau où le Christ sera le débiteur de ceux qui l'auront recouronné grâce à des moyens. Regardez mon programme, etc. Le Christ règne. Le Christ règne déjà, le Christ règne depuis toujours, son règne est là, il faut que nous nous y insérions, et non pas que nous imaginions que ou bien il a cessé d'être, ou bien qu'il réapparaîtra demain, mais quand même sous une version meilleure. Il règne aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'il faut s'insérer dans l'ordre des choses. Cet ordre des choses qui n'est pas à inventer, qui est ce qu'il est. Il est, il est là. Et ce n'est que le moyen que Dieu nous a donné, mais le seul moyen que Dieu nous a donné pour nous sanctifier. Alors, mes très chers frères, il y aurait tant de choses à dire encore pour sur le mystère de la fête du Christ roi. Nous nous en tiendrons là, avec l'aide de Dieu. Notre Dieu est couronné. Il n'est pas découronné. Il ne peut être découronné. Craignons, mes très chers frères, d'être parmi ceux auxquels notre Seigneur dit « Vous me déshonorez ». Nous le déshonorons par la militance, nous le déshonorons en faisant des choses qui ne relèvent pas de notre état, nous le déshonorons en disant à qui veut l'entendre qu'il est découronné, soumettons-nous humblement à ce Dieu, entrons dans son ordre, rectifions nos voies, en nous soumettant à son règne, et nous verrons véritablement que notre Dieu règne et que le monde entier est peuplé d'aveugles qui ne le voient pas, à leur ruine et à leur destruction, et nous prions aussi pour eux pour que leurs yeux s'ouvrent.